101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
À l'initiative et avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, l'Université de Nantes accueille une résidence de journalistes inédite initialement prévue au second semestre 2020-2021. Elle a lieu du 11 octobre au 3 décembre 2021 et en coopération avec les associations étudiantes, des laboratoires de recherche et des services de l'université. Comment réinventer ensemble les médias et leur rapport à la science? Quelles conditions d'exercice de la profession de journaliste et de journaliste scientifique? Ce sont les sujets qui ont été abordés pendant cette résidence. Les deux journalistes Alice Mounissami et Marine Forestier ont ainsi créé à l'issue de cette résidence un journal papier qui retrace leurs échanges et discussions avec les étudiants, étudiantes et scientifiques de l'université. Rencontre avec les deux journalistes. Marine Forestier, bonjour. Vous êtes journaliste et depuis 7 ans et experte des questions d'égalité dans les médias. Et vous travaillez depuis 2018 pour Les Autres Possibles et Médiacité sur des sujets politiques, d'écologie et de société. Alice Mounissami, bonjour. Vous êtes ingénieure et journaliste scientifique, préférant aller en immersion dans les laboratoires pour interroger la place des sciences et des scientifiques, toujours dans les questions de société et d'écologie. Et l'université vous a donc accueilli toutes les deux en résidence de journalisme. Les sujets possibles étaient très larges et variés, mais ce qui a été notamment retenu, c'est comment favoriser les interactions entre le monde de la recherche et les enjeux contemporains liés aux médias. Alors, quel était l'objectif principal ou les objectifs de cette résidence en arrivant sur le campus Sciences de l'Université de Nantes? Marine ?
Alors il y avait plusieurs objectifs. Nous on est venu avec en tout cas une envie de rencontre et d'échange.
Alice?
Oui, parce que cette place du doute, en fait, finalement, elle vient sans cesse énerver le débat du grand public, en fait, enfin des citoyens, parce qu'en fait on est toujours en train de remettre en question la parole des uns, des autres, d'une source, d'un article, d'une décision ou d'un conseil, qu'il soit scientifique ou politique ou donné par des journalistes. Mais en fait, dans cette marée de doutes, il y a un doute qui est de l'ordre de du raisonnement et de la critique, d'une critique qui est pertinente. Et après, il y a aussi un énorme marché du doute qui est plutôt lié à semer plus de flou dans la prise de décision, dans la manière dont les gens peuvent s'orienter pour comprendre un débat scientifique, ou en tout cas quelles vont en être les conséquences sur leur vie au quotidien, sur leur avenir, notamment ça a été le cas pour le climat, mais aussi pour la crise sanitaire. On se rend bien compte que cette question de la confiance, finalement, elle vient être attaquée de toutes parts, ne serait-ce qu'au niveau scientifique. Est-ce qu'on remet en question ou non tel résultat scientifique? Et dans la parole du journaliste, est-ce que le travail de journaliste a été fait de manière correcte? Est-ce qu'on peut faire confiance à tel ou tel média? Ou n'a-t-il pas des intérêts qui sont contraires à ceux des citoyens et des citoyennes, par exemple? Et c'est cette crise de confiance, finalement, qu'on est venu questionner.
Et c'est quelque chose qui était également parmi les questionnements des étudiants et des étudiantes. En fait, c'était vraiment un tout de se reposer la question de, finalement, à qui est-ce qu'on peut faire confiance quand on trouve une information scientifique, que ce soit dans les médias, entre guillemets, traditionnels, de la télé, de la radio, de la presse écrite et même sur Internet ? C'était vraiment des questions communes à tout le monde ?
Alors, chez les chercheurs, on a vraiment constaté une méconnaissance du métier de journaliste, de sa réalité concrète sur le terrain, de sa réalité économique aussi. Qu'est-ce que c'est ? Nous, par exemple, nous sommes journalistes indépendants, donc pigistes. Peu de personnes étaient au fait de nos contraintes en termes d'écriture, en termes de ligne éditoriale, de comment on recherche des sujets ou on essaie de promouvoir un sujet auprès d'une rédaction, etc. On avait une vraie envie de créer un espace de médiation autour de la réalité de notre métier.
Du coup, du côté des étudiants et étudiantes, on n'en a pas eu beaucoup pendant la résidence, pour des questions d'emploi du temps sans doute. Et par contre, au tout début de la résidence, moi j'avais fait un ciné-débat où on avait projeté les nouveaux Chiens de garde. Et là, il y avait eu pas mal d'étudiants qui étaient venus. Et le film a fait beaucoup réagir. Et il y a eu beaucoup de questions sur... mais en fait, c'est comme ça le système économique des grands médias aujourd'hui. Et avec même parfois des questions, j'ai pas envie de le dire avec condescendance, mais un peu touchantes, avec cette idée de mais pourquoi les journalistes ne deviennent-ils pas tous indépendants, indépendantes ? Parce qu'en fait, dans les grands médias, on peut se faire, sans le vouloir, on peut faire le jeu d'intérêts autres que ceux de l'intérêt général. Et donc du coup, il y a sur ces sujets-là, il y a eu des questionnements où on voyait que l'intérêt était collectif sur ces questions, je trouve.
Est-ce que les scientifiques, comme les étudiants et les étudiantes, vous ont parlé de leur consommation des médias, de la façon dont ils les utilisaient ? Et est-ce qu'ils ont par exemple parlé de certains médias ou de certains médias de confiance en qui ils n'avaient pas trop de doutes comparé à d'autres ? Quels étaient les usages s'ils vous en ont parlé ?
Alors il y a beaucoup de ce dont je me souviens dans nos échanges, il y a pas mal de personnes qui ont parlé de la presse spécialisée et des revues plutôt scientifiques et qui sont propres à leur spécialité aussi, à leur domaine de spécialité. Et ensuite quand on parlait de presse plus généraliste, on va dire, la référence qui est revenue le plus souvent, c'était Le Monde. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai entendu parler du monde diplomatique aussi. Et voilà, en fait, il y avait un peu cette idée... Enfin, moi, ça m'a un peu étonnée de me dire « Ah, mais c'est que ça, vos références, entre guillemets. » Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de grande connaissance de la presse plus politisée et qui assume un regard plutôt que qui essaye de le cacher derrière une pseudo-neutralité, quoi.
À leurs yeux, le journaliste est vraiment quelqu'un de neutre qui est là pour faire une traduction, une transmission de des informations et qui ne prend pas position même pour des questions de société débattues et importantes.
En tout cas, c'est un a priori qui est assez tenace que finalement le journaliste est un simple porte-parole de la recherche, alors qu'en fait on réalise un travail d'enquête, de recoupement des sources et on introduit un point de vue qui contextualise les résultats scientifiques ou les thématiques qu'on aborde de manière en fait à venir percuter des enjeux de société aussi. C'est ça l'idée. Et on n'est pas des transcripteurs de la parole du scientifique, on n'est pas juste un canal de communication. Dans cette idée-là, finalement, effectivement, on n'est pas voué à être totalement objectif. En fait, on n'est pas capable d'être objectif. On est situé dans notre vision du monde, dans nos références culturelles, dans notre compréhension des sujets qui sont abordés par les chercheurs et chercheuses. Et aussi, on a une compréhension de ce qui pourrait être intéressant pour nos concitoyens, nos concitoyennes, qui sort du champ purement scientifique.
Et est-ce que lors de la résidence, vous avez pu rencontrer des chercheurs et des chercheuses qui sont venus vous parler de leur sujet de recherche ? Tout simplement, quel lien est-ce que vous avez pu avoir avec eux, elles et les labos dans lesquels ils étaient ?
Alors ça, c'était vraiment super pendant la résidence. On a vraiment pris le temps de rencontrer plein de chercheurs, chercheuses et de leur laisser le temps d'expliquer justement c'était quoi leur sujet de recherche. À la fois, on a fait un atelier speed dating où là, il y a un chercheur qui est venu et qui était le pauvre sous l'assaut de quatre journalistes avides de comprendre sa matière. Et en fait, c'était génial parce que ça paraissait, enfin, c'était technique comme sujet. C'est un chercheur à l'Institut des matériaux. Et il y avait plein d'implications politiques, écologiques, qui a fait qu'en fait, les journalistes qui ont participé à l'atelier sont toutes reparties en se disant « Ah, mais c'est des sujets, c'est des articles à écrire », donc c'était super enthousiasmant. Et on l'a refait ensuite, on a visité le labo d'informatique, le LS2N, et on a rencontré une petite dizaine de chercheurs, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, en gros, ils avaient un quart d'heure et ils nous présentaient leur sujet. Et typiquement pour moi, qui suis une journaliste généraliste, bien classique littéraire, comme on pourrait dire, moi, c'est des sujets que je n'aborde jamais dans mes articles, que je ne connais pas. Et au début, je me suis dit, wow, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir de ces échanges. Et finalement, après chaque entretien, je me disais, ah, mais c'est super intéressant, ça vaut le coup d'informer les gens sur ces sujets-là. Et donc ça a été vraiment une expérience, j'ai trouvé super riche pendant la résidence, en fait, de se rendre compte de ça et de se dire, bah, en fait, derrière chaque chercheur, il y a une recherche qui peut avoir un intérêt pour les citoyens, en fait.
Et comment est-ce que vous vous êtes approprié ces sujets, justement? Est-ce que le chercheur ou la chercheuse était déjà venu avec quelque chose un peu accessible, vulgarisé, ou, on va dire, les données étaient brutes et il y avait tout le travail d'accessibilité, de traduction à faire à ce moment-là? Alice?
Alors, je pense que les chercheurs et les chercheuses qui sont venus nous voir avaient déjà un petit peu réfléchi à la question de la transmission de leur champ de recherche, des notions qui étaient autour de leur champ de recherche. Et du coup, les dialogues étaient assez fluides. Bon, après, on a eu 2-3 chercheurs qui étaient un peu plus difficiles ou abruptes à comprendre, où il y avait vraiment un besoin qu'on déblaye avec eux les sujets. Je pense que c'était assez intéressant d'avoir ces temps un peu informels où on n'était pas sur un format d'interview, justement, où on a des questions précises avec un angle d'attaque qu'on a prédéfini et du coup on essaye de resserrer la personne à l'intérieur de cette perspective-là de son métier. Mais de laisser un peu tous azimuts la personne s'exprimer sur sa propre vision de son métier, de son intérêt pour la société, etc. Là, c'était vraiment très intéressant de balayer ouvertement ça et de venir faire écho à leur recherche, de dire bah, ça je comprends pas quand vous parlez de langue idéale, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est quelque chose comme ça, et de voir ce moment de réflexivité chez l'autre où elle se dit c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose qui est rentré dans notre discipline à tel moment, à telle époque, mais avant effectivement c'était plutôt un domaine philosophique, etc. Enfin voilà, de reprendre dans la profondeur de l'histoire leur domaine de recherche, d'expliciter des notions qui sont très implicites, qui sont devenues et tellement évidentes qu'elles coulent dans le quotidien, et d'avoir deux noobs comme nous qui viennent questionner naïvement, c'est aussi intéressant pour eux d'avoir ces miroirs, c'est pour réattaquer différemment leur champ de recherche.
Donc il y avait déjà eu un travail qui a été fait. Est-ce que vous avez eu, à l'occasion de ces rencontres ou même auparavant dans la pratique de votre métier de journaliste, parfois eu peut-être des réticences sur quand il fallait simplifier, vulgariser et être un petit peu moins exact sur l'information qu'il elle délivrait? Est-ce que c'est encore quelque chose que vous rencontrez, ou ça devient de plus en plus admis que on n'est pas tous et toutes des spécialistes du domaine?
Moi, j'ai eu différentes expériences assez récentes, en fait. Pour un même sujet, j'ai interrogé deux chercheuses différentes et l'une avait très peu de temps à m'accorder et donc m'a demandé les questions par mail, ce qui est pour moi un super frein. J'ai accepté parce que j'étais prise par le temps, mais normalement j'aurais sans doute refusé. Et en fait, du coup, on n'a pas eu de véritable échange et elle m'a reproché la simplicité de mes questions et m'a gentiment suggéré d'aller faire des recherches Google pour mon article. Donc ça, typiquement, voilà, c'était un moment pas très agréable. Et à l'inverse, la deuxième chercheuse que j'avais contactée, elle, en gros, dans le dossier que j'écrivais, c'est une interview à part, voilà, trois questions à telle chercheuse. Et je lui ai fait relire l'interview avant publication et elle m'a reproché d'avoir été trop proche de ses propos et trop exacte pour le coup. Du coup, à ses yeux, c'était trop oralisé, ça ressemblait plus à une conversation qu'à un papier de recherche et elle m'a demandé de reformuler pour que ça fasse plus écrit. Et ce qui était super drôle parce que c'était la première fois qu'on me reprochait d'être trop proche de la réalité. Et voilà, et je pense qu'il y a un peu des attentes du point de vue des chercheurs sur comment nous, on est censé écrire en tant que journaliste. Et par rapport à eux, leurs demandes, et c'est pas simple d'arriver à un accord, à un compromis qui aille aux deux, quoi.
On en revient à la question de est-ce que les chercheurs et les chercheuses savent ce qu'est le métier de journaliste finalement, et peut-être que leurs attentes et ce qu'ils imaginent est loin de la réalité dans les rédactions.
Probablement, et je trouve ça assez intéressant de multiplier les possibilités pour les chercheurs d'aller en immersion dans les rédactions de journaux, de médias tous azimuts, et de voilà, se confronter à, même ne serait-ce que d'être face publique de développer face publique une présentation simplifiée de leur recherche pour vraiment se rendre compte en fait de la difficulté et en fait de la valeur ajoutée qu'apporte le journaliste quand il vient faire l'intermédiaire avec un public. Souvent, moi, quand j'interview un chercheur ou une chercheuse, en préalable, je lui explique vraiment en long et en large à quoi je vais servir. Comme ça, au moins, quand y aura le moment de la relecture du papier, qu'ils viennent pas ou qu'elles viennent pas me dire « Ah, mais vous avez pas été suffisamment proche du... » de ce qu'on devait, enfin de ce que j'ai dit, etc. De vraiment, je leur explique où en est le public pour lequel je vais écrire, que c'est spécifique à ce public-là et que du coup, ce public-là, par exemple, si c'est, enfin, ne va pas connaître telle ou telle notion où on est à ce niveau-là sur une compréhension de la thématique de recherche en elle-même. Et souvent, en fait, avec ce préalable-là, c'est beaucoup plus fluide après. Donc, il y a toujours un peu de médiation à faire sur le métier.
Autre sujet qui vous a beaucoup occupé pendant cette résidence, la question de la représentation des femmes scientifiques et dans les médias. Vous avez organisé différents ateliers, dont une table ronde sur le sexisme dans les médias. Quels ont été les échanges? Qu'est-ce que vous avez pu en retirer? Et qui était d'ailleurs présent et présente à cette table ronde?
C'est un de nos événements de la résidence qui a le mieux marché. En termes de public, je dirais qu'il y avait à peu près un tiers d'extérieur de personnes qui venaient de Nantes, quoi. À peu près les deux tiers restants, c'était des personnes de l'université. J'ai vu à la fois des étudiants et étudiantes et puis plutôt des chercheurs qui étaient venus aussi, chercheuses. Et la doyenne est venue, la doyenne du campus, la secrétaire générale aussi. Donc en fait, c'était très flatteur pour nous de montrer que c'était un sujet qui intéressait le campus au plus haut niveau. Et en termes d'échanges, on a eu des situations assez... assez intéressante en fait, où il y a des personnes qui nous ont demandé c'est quoi les solutions en fait pour améliorer la représentation des femmes dans les médias, sur pourquoi en fait on donne plus facilement la parole à des hommes chercheurs en tant que journalistes. On nous a aussi demandé comment on fait pour convaincre les directions des rédactions en fait de cette importance de mieux représenter les femmes, et est-ce que c'est correct d'utiliser l'argument financier en disant que en fait les lecteurs et lectrices, par exemple pour la presse écrite, il y a une grosse chute du nombre de lecteurs, et en fait c'est en grande partie dû à la défection des lectrices et des jeunes. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un argument auprès des rédactions de dire si vous interviewez plus de femmes qui portent des sujets, qui parlent plus aux femmes d'aujourd'hui et aux jeunes qui sont concernées par ces questions-là, il y a plus de probabilité que ces personnes-là reviennent vers vous, achètent votre journal, lisent ce que vous écrivez. Et en même temps, c'est aussi il y a la question de la limite sur cet argument-là, parce que par exemple, il y a des journaux qui traitent à fond certains sujets qui concernent tout à fait les femmes aujourd'hui, donc par exemple les violences sexistes et sexuelles, mais qui le font avec un angle plutôt qui tombe plus dans le voyeurisme et dans la volonté de faire du buzz. Et donc oui, ça marche, mais est-ce que c'est souhaitable pour la société? Ça, j'en suis moins sûre. Et donc ça, c'est une conversation, par exemple, qu'on a eue à la fin de la table ronde, qui était super intéressante.
Pour rebondir, est-ce que vous observez du coup vraiment une espèce de double peine? C'est-à-dire que dans certaines sciences exactes ou expérimentales, il y a très peu de femmes qui plus a des postes importants, celles qu'on envoie quand on a besoin de parler des recherches. Est-ce qu'il y a un deuxième filtre de la part des rédactions dans certains journaux qui privilégie plutôt la parole des hommes par rapport à celle des femmes, parce qu'elles seraient moins expertes, moins pertinentes, par exemple?
Alors... Moi, j'ai participé à une émission radio dont je vais taire le nom parce qu'on va tout de suite trouver qui m'a fait cette réflexion. Et la personne, du coup, qui m'a interviewée m'a dit on m'a reproché qu'il n'y ait pas assez de femmes dans mes émissions. Donc, c'est une émission purement scientifique. Et il m'a dit, mais c'est évident que c'est un problème statistique. Elles font beaucoup moins de papiers intéressants. Et je ne fais qu'être objectif en tant qu'intervieweur, en tant que journaliste, en fait, en rendant l'état de l'art de ce qui se passe dans le milieu scientifique.
Que ce n'est qu'une représentation naturelle, et que s'il y a moins de femmes en sciences, devrait y en avoir moins d'interviewées.
Exactement.
C'est donc ça, bien sûr.
Donc ça, je pense, une réflexion un peu courte sur le sujet, assez dommage, parce qu'en fait, des expertes dans tous les domaines, il y en a qui sont extrêmement pertinentes, et qui justement, quand on est journaliste et en quête d'originalité, de nouveaux points de vue, d'angles un petit peu dissonants, etc. Je trouve ça bête de passer à côté de ces expertes qui vont aller apporter une richesse nouvelle et renouveler aussi la manière d'attaquer, de percevoir un sujet. C'est assez dommage, mais effectivement, ça a vraiment la peau dure. Et c'est aussi, je pense, lié au fait que dans les postes de décision en journalisme, on a aussi affaire à beaucoup d'hommes, et qu'il y a un copinage assez fort aussi de par ce biais-là. Il y a quand même un petit peu cet effet je connais tel collègue, tel ami qui aimerait bien être dans ton émission, etc. Et du coup, il y a quand même un petit copinage qui fait que de proche en proche, on a l'impression, ces journalistes-là, ces rédacteurs en chef peuvent avoir l'impression que leur référentiel et leur carnet d'adresses n'est peuplé finalement que d'hommes experts.
Et du coup, même question qu'à l'atelier, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la part de représentation des femmes auprès des journalistes, enfin plus de femmes dans les médias scientifiques qui plus est? Est-ce que vous avez des pistes à ce sujet, des bons conseils à impliquer?
Il y a plein de solutions, c'est ça qui est plutôt enthousiasmant. Du point de vue des médias, déjà, compter, c'est se rendre compte de la réalité. Et c'est vrai qu'il y a encore peu de médias qui le font, mais le Monde le fait, le quotidien suisse Le Temps le fait depuis un moment aussi. Et ça commence à se répandre petit à petit dans les autres rédactions, donc de se rendre compte, dans telle rubrique, combien on a de femmes interviewées, combien d'hommes. Avoir aussi un point de vue qualitatif, parce que souvent les femmes, elles sont interviewées justement pas à des postures d'expertes, mais plutôt dans des positions de victimes ou de témoins. Donc avoir ce regard critique sur ce qu'on produit. D'ailleurs, Le Monde, ils se sont rendus compte, par exemple, qu'une des rubriques où ils avaient le moins de femmes, c'était les tribunes. Et ça dit quand même quelque chose de très important, parce que la tribune, c'est le lieu le plus politique dans un journal. C'est le moment où on affirme une opinion forte. Et en fait, très peu de femmes étaient signataires de tribune. Et donc, le Monde a essayé de réfléchir à comment valoriser dans son carnet d'adresses des personnes qui pourraient ensuite participer à ce genre de tribune et prendre plus de place, en fait. Donc ça, pour moi, c'est le premier levier et ça marche aussi bien pour au niveau d'un journal qu'au niveau d'un journaliste. En fait, quand on écrit un article, s'interroger sur est-ce que j'ai interviewé des femmes, sinon pourquoi, est-ce que ma femme aurait une place dans cet article. Et après, du point de vue plutôt universitaire, on va dire, là, beaucoup de femmes chercheuses ont témoigné auprès de nous aussi des difficultés auxquelles elles avaient à faire face à l'université, à la fois en termes de progression de carrière, le fait qu'on leur alloue plus de tâches administratives qu'aux hommes, et donc du coup elles ont aussi moins le temps. Et en plus d'être des chercheuses, ce sont aussi des femmes. Et donc, quand on sait qu'il y a 80% des tâches domestiques qui sont assurées par les femmes aujourd'hui en France, ben forcément, les chercheuses sont aussi concernées. Donc, elles n'ont pas forcément beaucoup de temps entre leur vie pro et perso pour répondre aux journalistes. Et mieux valoriser aussi les actions de médiation, de vulgarisation auprès des chercheurs et donc des chercheuses. Je pense que c'est aussi une action qui pourrait participer à mieux les représenter.
Et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
De retour au Labo des Savoirs après une pause musicale, The Go Team et leur titre Mayday, nous sommes toujours en compagnie d'Alice Mounissami et de Marine Forestier, les deux journalistes en résidence à l'Université de Nantes. Journaliste, qui est un métier qui n'est peut-être pas si bien connu par l'ensemble de la population. Voici alors une question relativement simple. C'est quoi être journaliste?
Ah, c'est dur comme question. Pour moi, être journaliste, en tout cas, mon envie à moi d'être journaliste, elle se traduit par une façon d'appréhender le monde avec un regard politique sur ses dysfonctionnements et l'envie de donner la parole aux personnes qui l'ont le moins pour justement essayer de trouver des solutions sur ces dysfonctionnements-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et du coup, c'est aussi avoir une certaine humilité dans la façon de traiter ces sujets-là, parce qu'on n'est pas omniscient et on n'est pas totalement objectif. Donc, c'est aussi se dire, moi, là, c'est mon regard à moi qui va forcément m'intéresser à certains sujets plus qu'à d'autres. Et donc, admettre que, voilà,
Dans votre pratique du journalisme?
Mes papiers, je suis qu'une pierre dans toute la cathédrale, on va dire.
Alice, vous qui êtes journaliste scientifique, pourquoi avoir choisi cette voie spécialisée de la science?
Alors, avant d'être journaliste, j'étais ingénieure et je pense que j'ai, par mégarde, été ingénieure parce que je croyais que j'allais faire des sciences. C'est un peu ça l'écueil dans lequel beaucoup de gens sont tombés et je suis tombée dedans aussi jeune. Donc j'ai fait une prépa en imaginant que j'allais pouvoir garder le plus de matières scientifiques dans mon cartable. Et finalement, ce que j'ai appris, c'est un métier technique, utilitaire. Et j'ai eu une immense envie, à la fin de mon diplôme d'ingénieur, de revenir vers cette curiosité scientifique et d'apprendre, en fait, comment fonctionnent les sciences, comment elles sont produites dans les laboratoires, et de continuer à apprendre et à me poser des questions et à froncer les sourcils devant des mots bizarres. Et cette envie-là, elle était aussi conjointe à une envie d'écriture et de trouver une place, enfin ma place, dans le débat de société, dans la manière dont on peut appréhender les sciences pour s'aider, pour se diriger dans l'océan d'incertitude dans lequel on vit. L'idée pour moi, c'est pas de réaliser de la vulgarisation pure pour le principe de la beauté de la connaissance, mais la connaissance, pour moi, elle est là aussi pour nous apprendre à vivre ensemble et à faire commun et à essayer d'établir sur une base d'idées communes un avenir qui soit aussi désirable et qui fasse cohabiter différents types de citoyens. Enfin, c'est vraiment ce but-là, quoi, d'aider à l'orientation, d'aider à la décision, d'avoir des débats plus éclairés, en fait, qui permettent aux citoyens et aux citoyennes de s'orienter en politique, de s'orienter dans leur choix de consommation, dans leur choix de vie, quoi. Enfin.
Vous avez parlé de vulgarisation. Est-ce que être journaliste, c'est vulgariser l'information aussi?
C'est un préalable. On a besoin que tout le monde soit d'accord sur les termes pour avoir un débat. Et ensuite, moi, ce que je pense, c'est que le journaliste, lui, vient apporter et enrichir cette vulgarisation avec un contexte historique, avec un contexte social, avec une manière de regarder un sujet scientifique, enfin, en tout cas dans mon cas, un sujet scientifique à l'aune des enjeux sociaux, des enjeux économiques, de la manière dont ils peuvent être perçus par différents types de publics, etc. C'est vraiment cette idée d'aller frictionner les sciences avec le terrain.
Et est-ce qu'il est tout simplement indispensable d'avoir fait des sciences, avoir un parcours scientifique, avant d'être journaliste scientifique? Ou c'est une culture qui peut s'acquérir par la suite?
Moi, je suis vraiment partisane de dire pas du tout. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une compréhension des méthodes scientifiques, de la manière dont les sciences sont produites dans les laboratoires, d'avoir une idée, une conscience de l'histoire des sciences aussi, de ces aspects à la fois d'évolution, en fait, de la méthode scientifique, parce qu'elle n'est pas, si unique que ça, et aussi d'avoir conscience des aspects sociologiques des conditions de production des sciences dans les laboratoires. Ça, c'est hyper important de savoir d'où ils parlent, ces chercheurs et ces chercheuses, pourquoi ils parlent comme ça, et comment en fait ce dialogue a pu se dégrader dans le temps, comment en fait il a pu se restreindre à certains lieux ou à certaines personnes, quoi. Enfin, c'est vraiment des points importants
pour savoir comment est produite la science et pas uniquement sur ce qu'est un savoir scientifique, les faits très pointus qui peuvent être produits en laboratoire. On a parlé un petit peu plus tôt de la presse spécialisée, justement, de tous ces médias où il reste encore des sciences, mais on a l'impression qu'ils sont de moins en moins nombreux. Est-ce que c'est juste une impression ou y a-t-il véritablement dans les rédactions, que ce soit la presse généraliste ou la presse généralisée, la télé tout simplement, moins de science?
J'ai envie de dire non, mais c'est plus un espoir qu'une réalité observée. En fait, je ne sais pas, par exemple, si sur les plateaux télé, vraiment sur le JT, par exemple, est-ce qu'il y avait plus de scientifiques avant qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est clair que quand on voit parfois ce qui est présenté en termes de courbes, de chiffres, de comment on représente une augmentation, enfin, là, je parle même de mathématiques simples, mais on voit déjà les problèmes, quoi. Et en fait, on revient même sur les émissions en général, on revient aux mêmes questions tout à l'heure sur la représentation des expertes. En fait, comme on a tendance à inviter toujours les mêmes personnes et qu'elles ne sont pas omniscientes, elles non plus, et ben, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées et sans forcément avoir ce côté, la rigueur scientifique qu'on pourrait demander. Pour autant, si on réfléchit par exemple au traitement des sujets climatiques, on est quand même aujourd'hui à une couverture médiatique sur le dérèglement climatique qui n'est pas du tout la même qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est beaucoup plus intense. Et donc, j'ai l'impression que sur ce champ-là, par exemple, la science est quand même beaucoup interrogée. Et quand on voit comment c'est médiatisé, par exemple, les rapports du GIEC, alors bien sûr, en fonction du type de média, un traitement plus ou moins approfondi, mais quand même, la science est bien présente. Et là, avec le Covid, on l'a revu aussi. Le problème, c'est qu'avec les conditions actuelles de production de l'information, le temps qui est alloué aux journalistes pour produire et les demandes aussi, là typiquement sur le Covid, il y avait des demandes urgentes d'informations qui sont pas du tout en accord avec le temps de la science. Forcément, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va arriver à la fin, quoi, en termes de rigueur et de vérité.
Moi, j'ai vraiment une sensation qu'on instrumentalise les sciences et les techniques dans le débat politique et dans le débat démocratique. Et que finalement, il y a un petit peu une forme d'opacification du débat parce que, en fait, tout le monde n'a pas les outils scientifiques pour décider. Alors qu'en fait, les outils scientifiques, ils ne sont pas là pour donner le curseur du bon ou du mal parce qu'en fait, le but de la science n'est pas convergent forcément avec le but de la démocratie. C'est deux choses différentes. En fait, on a besoin de plus de personnes pour réfléchir à ce que les sciences ont à la société, finalement, ce que ça apporte et comment on a envie de le vivre. Par exemple, on pourrait parler de la physique nucléaire, mais en fait, on va pas demander à un physicien nucléaire de statuer sur oui ou non Fessenheim. Enfin, c'est pas ça. On peut avoir besoin d'être éclairé sur comment ça fonctionne et pourquoi il y a une dangerosité avérée, d'avoir des curseurs, en fait, pour bien comprendre les termes du débat. Mais je pense, une question qui concerne plus globalement tous les citoyens et citoyennes. Et on a tendance, en tout cas, dans la mise en place du débat citoyen, on a tendance à utiliser l'arme scientifique, les mots et ce vocable un peu opaque, un peu difficile d'accès pour tous et toutes, pour clore le débat, finalement, pour mettre des gens hors jeu dans ce débat-là, de vraiment, et je pense que c'est vraiment une violence cognitive de faire ça. Et l'idée du journalisme scientifique, du journalisme tout court, c'est de réduire cette distance, en fait, de pas de redonner de la chair, du contexte, du conflit, réouvrir les perspectives. Ah oui, on parle de physique nucléaire, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfouissement de déchets? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour le futur? Et là, ça concerne beaucoup plus de gens et ça concerne sa vie dans l'immédiateté, dans l'espace, dans le temps, beaucoup plus
au centre de chaque individu que si on vous parle tout simplement de la physique nucléaire, c'est ceci, c'est cela, quoi. Enfin, il y a vraiment nécessité à aller plus loin. Et je trouve que dans le traitement de, tu parlais, Marine, du traitement de la crise sanitaire. En fait, on a vu énormément d'experts se relayer sur les plateaux, mais en fait, enfin, on a un peu l'impression qu'ils sont là à décider avec avec le gouvernement, avec les ministres, etc., de la manière dont va être traitée la crise, des mesures à prendre, etc. Et finalement, en fait, quand on interroge les comités scientifiques, ils n'ont pas été écoutés de manière juste, en fait, dans le débat. Ils ont vraiment été instrumentalisés. Oui, tel épidémiologue a dit, épidémiologiste a dit qu'il fallait confiner, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment, on parle de la science alors qu'on devrait parler des sciences et d'un processus qui doit être intégré dans la prise de décision, mais pas à la place où elle est actuellement.
Et certainement pas comme argument pour décider que c'est la fin de partie, par exemple.
Exactement.
Pour ne citer personne. Parce que est-ce que l'information scientifique peut être traitée de la même façon qu'une information, je vais dire classique, mais une information politique ou d'actualité? Ou est-ce qu'elle demande vraiment peut-être presque plus de rigueur, plus de sources à croiser? Est-ce qu'elle a le même traitement?
Je dirais que les journalistes ont tous besoin de les mêmes outils de recoupement de sources, d'enquête, dans les deux. Moi, j'ai des collègues qui sont vulgarisateurs ou vulgarisatrices en économie, et ça manque. Quand j'ai pu avoir accès à ce travail-là de vulgarisation, d'explication et de recontextualisation, moi j'ai trouvé que c'était aussi important que de vulgariser les sciences, parce que moi j'y comprends vraiment rien.
Oui, moi je veux bien rebondir là-dessus aussi. Pour moi, non, il n'y a pas, ça peut pas être traité différemment. Enfin, la rigueur, elle doit s'appliquer dans tous les champs. Et même, parce que les conséquences peuvent être dramatiques dans tous les cas, en fait, d'une information maltraitée. Et là, je pensais aux violences sexuelles, par exemple. Là, en ce moment, médiatiquement, on parle beaucoup des accusations qui pèsent contre Nicolas Hulot pour des faits d'agression et de viol, si je ne me trompe pas. Il se trouve qu'une enquête était déjà sortie il y a 4 ans, mais elle n'avait pas, elle avait été faite avec un peu moins de rigueur. Et il a été très facile à l'époque pour Nicolas Hulot de déminer cette enquête. Et d'ailleurs, ça a causé la fin du journal qu'il avait sorti, parce que tout le monde a expliqué que cette enquête était mal faite. Pourtant, ça ne voulait pas dire que les faits rapportés étaient faux. Et en fait, là, ça ressort. Et là, apparemment, c'est une grosse enquête qui a l'air un peu plus solide. Et Nicolas Hulot a annoncé qu'il quittait la vie politique. Mais ça veut dire aussi que pendant 4 ans, ces 4 ans-là où l'enquête elle a dû être reprise, c'était 4 ans de plus pendant lesquels les victimes, elles n'ont pas forcément parlé, ou elles n'ont pas forcément été conscientes qu'elles n'étaient pas les seules, qu'en fait, il y avait plusieurs victimes, et elles ne se sont peut-être pas soignées pendant ce temps-là. Et donc, finalement, on ne parle pas d'un sujet comme la physique nucléaire, mais les conséquences, elles sont très importantes aussi. Donc, pour moi, la rigueur, ça doit être un peu un mantra, quel que soit le champ qu'on couvre.
Et justement, quand la rigueur n'est peut-être pas respectée, que l'information n'est pas vérifiée ou recoupée, on peut parler de désinformation par moment, même dans la crise sanitaire, ou même d'autres informations qui ne sont pas scientifiques. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire? Qu'est-ce qu'il est encore possible de rattraper? Et est-ce à nouveau le rôle du journaliste d'endosser ce rôle de rectificateur ou de rectificatrice de l'information?
Alors, moi, j'ai une opinion pas consensuelle sur le sujet. Moi, j'ai jamais compris pourquoi d'un coup on appelait des équipes de fact-checking ou de débunkage d'informations, parce que pour moi, ça a toujours été la base du journalisme. Et je trouve qu'en ce moment, bien sûr, il y a un vrai problème de propagation, parce qu'avec Internet, les fake news vont beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est même un combat sans fin, vu qu'elles vont beaucoup plus vite qu'une info vraie, et y compris d'une info rectifiée. Mais je trouve qu'il y a aussi une focalisation sur un certain type de fake news et pas sur d'autres. Et finalement, des fausses informations, il y en a toujours eu. Les politiques ont toujours propagé de fausses informations. Enfin, les affaires, les scandales politiques qu'on a avec nos anciens dirigeants, nos anciens présidents le montrent bien. Et eux, on les taxe pas de fake news, alors qu'on est clairement dans le mensonge et dans la désinformation. Donc, du coup, c'est un peu la question où je me dis, ben oui, maintenant il y a ces rubriques-là de journalistes qui vont essayer de prendre toutes les infos virales et de montrer pourquoi à tel point, c'est faux. Et c'est important. Mais finalement, c'est pas non plus. Est-ce que c'est pas de toute façon dans l'ADN du journalisme de faire ça? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de nommer cette façon de faire, quoi?
Je rajouterais que je trouve ça assez intéressant qu'il y ait des personnes de la société civile qui se soient aussi engagées dans ce combat de fact-checking et d'aller remonter les informations, de produire des outils libre ou sécurisé pour nous rendre ce travail de journalisme en fait encore possible et encore pertinent. Je trouve que c'est ce support en fait des citoyens citoyennes, ça peut être au moins un des seuls avantages des réseaux sociaux, et quand je dis réseaux sociaux, aussi des communautés sur Internet, etc., qui peuvent vraiment aider à avoir une force de frappe plus importante. Et on n'a pas du tout le temps de faire tout ce travail, forcément, de recoupement d'informations, de dénonciation des faux contenus, parce que, comme disait Marine, ils sont pléthores, et je connais des gens qui passent vraiment une certaine partie de leur journée à remonter des informations, et j'ai parfois même l'impression que les fausses informations viennent pour rajouter du bruit, mais aussi faire perdre à tout le monde en efficacité dans son propre métier. Et je me dis, mais peut-être qu'on devrait tous les laisser comme ça et on n'y peut rien. Enfin, il y a un peu une envie de se dire, mais c'est un peu vain, parce que on est vraiment sur du David contre Goliath, quoi. Énorme. Mais en même temps, je me dis qu'il faut pas lâcher, parce que on va tomber dans un relativisme total.
Et à quoi ça ressemble finalement, du coup, parce que vous me parlez de vos journées, même de journalistes, qu'il y en a qui passent même du temps à checker les informations, recouper les sources, etc. Mais on en revient peut-être à une des premières questions, c'est quoi le métier de journaliste? À quoi ça ressemble en fait vos journées quand vous avez besoin de faire un papier, d'écrire une chronique, une capsule? À quoi ressemble le travail dans une rédaction, Marine?
Alors, dans une rédaction, moi j'ai pas été dans une rédaction depuis 3 ans à peu près, mais avant... Eh ben, il y avait beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de temps sur ordinateur en fait, et ça dépend beaucoup du poste occupé. Quand je travaillais à l'agence de presse spécialisée AEF Info, une partie de mon temps c'était analyser les communiqués de presse des ministères, aller aux conférences de presse, rapporter ce qui avait été dit en conférence de presse. Et une deuxième grande partie de mon temps, c'était d'aller manger. Parce qu'en fait, on faisait du réseau et en fait, on invitait nos sources à déjeuner ensemble le midi. Et c'était le moment où on avait des discussions informelles et où on apprenait comment fonctionne tel ou tel système, comment telle loi a été votée, qu'est-ce qui est en cours en ce moment politiquement. Et donc, c'était un peu ça la deuxième partie de ma journée. Par contre, quand j'étais au Monde, j'étais au desk, et donc je m'occupais principalement de bâtonner les dépêches AFP. Et là, moi, mes journées, c'était surtout regarder mon écran d'ordinateur en attendant que la dépêche AFP tombe, et quand j'en trouvais une intéressante pour le site, la copier-coller, la modifier un peu et la publier, quoi.
Qui écrit finalement les articles? Qui prend les décisions de que telle ou telle chronique sera publiée, sera entendue? Quels sont les différents rôles dans une rédaction et différents types de métiers de journalisme?
Par exemple, quand je travaillais au Monde, il y avait 2 conférences de rédaction par semaine, donc plus les petites réunions quotidiennes. Et donc, les conférences de rédaction, c'est vraiment le grand moment où on se retrouve entre journalistes et avec le rédacteur ou les rédacteurs, rédactrices en chef. Et là, on analyse un peu ce qu'il va se passer, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quels sont les sujets qui font débat. Et on donne des propositions de sujets en disant, ce serait bien de rebondir sur telle actualité en interviewant un chercheur, par exemple. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a aussi les journalistes pigistes qui font des propositions, mais ça, on ne le voit pas en conférence de rédaction. La plupart du temps, les journalistes ne sont pas inclus dans les rédactions et donc eux, ils contactent par mail les chefs pour faire des propositions de sujets. Et ensuite, il y a des réunions auxquelles nous, journalistes, on n'a pas accès, qui sont entre rédacteurs et directeurs de la rédaction, par exemple. Là, j'utilise le masculin parce qu'honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup d'hommes. Et qui vont davantage travailler sur la hiérarchie de l'information.
Alice,
qu'est-ce qu'on décide de mettre en une du journal ou en une du site? Sur quoi on va faire une alerte ou sur quoi on ne fera pas d'alerte pour les smartphones? Et là, pour le coup, l'information, elle appartient déjà plus aux journalistes. C'est encore dans des sphères au-dessus que ça se décide, quoi.
Donc, il y a toute une chaîne de l'information. Et vous m'avez dit que vous étiez toutes les deux indépendantes, pigistes. Est-ce que c'est un métier précaire?
Alors, on se faisait la réflexion avec Marine pas plus tard qu'hier, que finalement, enfin en tout cas, c'est ce que j'en tire de cette réflexion, c'est que pour pratiquer mon métier de journaliste scientifique dans les meilleures conditions, j'ai besoin de faire autre chose que du journalisme à côté. Et ça, ne serait-ce que pour juste garder en tête que c'était pour être libre et avoir plus d'indépendance et plus de choix dans la manière de traiter les sujets, que j'ai voulu être pigiste. Et que pour rester libre, il faut aussi avoir une stabilité financière et ne pas être contraint de choisir, de prendre des sujets parce qu'on n'a pas autre chose à faire et qu'en fait, il faut boucler la fin du mois. Je suis à l'aise financièrement par mon activité de médiatrice scientifique, de chargée de projets, de conception de projets de médiation. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller hybrider mes outils de journalisme avec les outils de la médiation et du coup de quand même continuer à avoir ce regard journalistique, mais sur mes autres activités, enfin sur une activité qui n'est pas considérée comme du journalisme. Mais hélas, je pense que c'est vraiment le problème de quand on est en rédaction, d'avoir beaucoup de pression à l'écriture, peu de temps pour produire des longs papiers. Ou avoir les coups des franches pour faire de l'enquête, pour recouper proprement, avoir une bonne relecture de ses articles, etc. Ce qu'on peut avoir en pige si, par ailleurs, en fait, on ne se sent pas trop pressurisé matériellement, quoi. Et c'est vraiment un équilibre. Et il y a ce truc un peu bâtard où, finalement, on est payé au feuillet et... Et c'est pas le pire des moyens de rémunération de se dire bon bah je dois pondre 20 000 signes et je serai payé en conséquence, mais c'est pas forcément le meilleur quand on sait que bah voilà plus on met du temps à écrire un feuillet et moins on est payé, donc c'est il y a ce côté où en fait il y a une injonction contraire à produire moins de qualité pour pouvoir avoir un salaire à peu près correct, quoi.
Marine,
pour rebondir, il y a des données qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur les pigistes, et si je ne me trompe pas, le salaire moyen est autour de 1200 euros net par mois. Donc ça donne une idée, on va dire. Pas beaucoup de pigistes roulent sur l'or. Ceci dit, il y en a, donc c'est quand même important de le noter, mais ça demande une méthode et une façon de faire très particulière. Moi, ce que je note là, après 3 ans en étant pigiste, c'est qu'il... Pour en vivre, si on voulait faire à 100% que de la pige, mais moi, comme Alice, à côté, j'ai un travail de formatrice, en fait, qui me permet de compléter. Je pense qu'il faudrait aussi être un peu genre pragmatique, on va dire, dans à qui on propose les sujets. Est-ce qu'on choisit de ne proposer qu'à des médias qui payent bien? Est-ce qu'on essaye d'éviter de courir après le journal le plus prestigieux? Et est-ce qu'à la place, on prend pas le journal un peu plus confidentiel, mais qui paye correctement et qui prend plus en longueur aussi, par exemple? Et donc ça, c'est des choses, c'est des arbitrages à faire, en fait, individuellement. Et tout le monde est un peu, enfin voilà, trouve sa voie dans ça, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas forcément un métier où on gagne beaucoup beaucoup sa vie. Après, par rapport à d'autres statuts, on est très privilégié dans le sens où on est quand même considéré comme salarié. Donc on cotise pour la retraite, on cotise pour le chômage, on cotise. Alors maintenant, on cotise aussi pour les arrêts maladie et donc les grossesses, mais c'était pas le cas avant. C'était pas facile d'avoir accès au congé mat, par exemple. Mais mine de rien, on a quand même un statut qui est constamment remis en, en question par les grands patrons, mais qui en réalité, pour l'instant, se maintiennent et sont assez protecteurs. Et c'est pas mal de se le rappeler aussi de temps en temps.
Oui, c'est pas mal de le rappeler. Dernière question pour conclure cette interview, pour reparler de la résidence qui est sur le point de se terminer. Quelle en sera la forme de restitution? Où est-ce qu'on pourra trouver les travaux, tout ce qui aura été produit à l'occasion de ces échanges pendant 9 semaines? C'est bien ça?
Ouais. Oui, c'est bien 9 semaines. On va écrire un petit journal qui, en gros, aura un format A5 et qui pourra se déplier. Donc, on s'inspire de la forme du journal des autres possibles, qui est le journal qui nous soutient pendant cette résidence. Dedans, on est encore un peu, on est en plein dedans justement sur la forme et le fond. Dans l'idée, on veut parler de la question de la confiance et de comment on fait confiance dans une information ou dans une personne qui transmet une information. Et on a interrogé des chercheurs et des chercheuses sur leur métier, sur comment ils se voient eux dans la société, par exemple, pour venir sur la question de la politisation aussi de la recherche. Et voilà, on imagine, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais parler un peu de la chaîne de confiance, justement, comment une information passe par différentes étapes et est plus ou moins modifiée et plus ou moins fiable. C'est un peu ça l'idée.
Alice, pour conclure.
Oui, l'idée, c'est vraiment dans ce journal qu'on va essayer de laisser comme trace de notre passage, c'est de conclure, ou en tout cas de continuer à garder un dialogue entre ces chercheurs, ces chercheuses qu'on a rencontrés, l'image qu'ils nous ont donnée de la réalité de leur métier, et aussi de leur transmettre le message qu'on a vraiment le sentiment de partager plein de points communs dans la pratique de notre métier, dans sa méthodologie, dans la rigueur, dans la déontologie. Mais aussi qu'on souffre des mêmes difficultés, une même pression à l'écriture, des pressions économiques, une projetisation de notre métier et ces orientations qui viennent pas forcément de nous, mais voilà, qui nous obligent à nous insérer dans des canaux de financement précis, etc. Voilà, on a ces mêmes contraintes qui viennent en fait mettre à mal cette confiance que les citoyens et les citoyennes peuvent avoir en notre parole, en fait. Et c'est ce parallèle-là qu'on avait vraiment envie de faire affleurer et de continuer à questionner.
Et ben, on a hâte de mettre la main dessus. Alice Mounissami, Marine Forestier, merci d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Et vous pourrez retrouver le résultat de cette résidence sous la forme d'un journal papier distribué autour du campus de l'Université de Nantes. Merci encore à Alice Mounissami et Marine Forestier, et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Liebe